Vous êtes-vous jamais dit, si j'avais su alors ce que je sais aujourd'hui, j'aurais certainement agi autrement? Oui. Pour la plupart, nous aurions fait les choses différemment si nous avions su avant ce que nous savons maintenant. Bien sûr, nous ne pouvons pas changer le passé. Mais qu'en est-il du futur? Pouvons-nous déjà connaître ce qui arrivera dans les mois et les années à venir? Existe-t-il une source fiable qui annonce les événements futurs? Beaucoup semblent le penser et cherchent de tous les côtés. Plusieurs de par le monde interrogent les diseurs de bonne aventure. D'autres consultent quotidiennement leur horoscope. D'autres encore lisent les livres des prophètes autoproclamés d'hier ou d'aujourd'hui. Mais la question demeure, quelqu'un peut-il vraiment connaître ce qui va se passer dans le futur? Y a-t-il une source fiable vers laquelle vous pouvez vous tourner pour savoir ce que vous réservent les jours qui viennent? Oui, il en existe une. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous verrons quelle est cette source et pourquoi vous pouvez vous y fier. Elle est digne de confiance. Elle a d'ailleurs annoncé plusieurs événements bien avant qu'ils ne surviennent. Il y a très longtemps, elle a prédit avec précision beaucoup d'événements culturels et géopolitiques que nous voyons se produire de nos jours. Et cette même source prédit encore clairement d'autres événements qui affecteront bientôt votre vie et celle de ceux que vous aimez. Comme nous le verrons, elle est digne de confiance. Et elle a fait ses preuves. Restez à l'écoute. Salut à vous! Nous allons examiner aujourd'hui ce que beaucoup considèrent comme étant le livre le plus important qui ait jamais été écrit. Ce livre, vous l'avez sans doute deviné, c'est la Bible. Savez-vous qu'entre un quart et un tiers de son contenu est consacré à la prophétie, c'est-à-dire à l'anticipation de l'avenir? Elle nous enseigne non seulement le but de notre vie et comment il nous faut vivre, mais elle prédit aussi l'avenir avec clarté. Je sais qu'il s'agit d'une affirmation audacieuse, mais considérons les éléments de preuve suivants. Premier élément, la Bible a prédit, il y a 1900 ans, que l'homme serait un jour capable de détruire toute vie sur la planète. Je n'ai pas dit qu'il détruirait le monde, mais qu'il en aurait les moyens. Depuis le début de l'humanité, les êtres humains se sont entretués, parfois par colère ou jalousie, parfois pour prendre ce qui ne leur appartenait pas. En fait, des millions de gens furent tués dans un grand nombre de guerres et de conflits entre nations. Durant la majeure partie de son existence, l'être humain a livré bataille en utilisant des moyens rudimentaires et mécaniques. Les hommes ont tué à coups de pierre, de bâtons, d'épées et de flèches. Même avec la poudre à canon et les explosifs, pourtant meurtriers, on ne tuait que très peu de personnes à la fois. Bien sûr, si on lançait suffisamment de pierres et si on tirait beaucoup de flèches ou de balles, les pertes de vie humaine pouvaient être importantes. Ceux qui étudient l'histoire sont étonnés du nombre de victimes faites au cours des guerres passées par ces moyens plutôt primitifs. Or, de nos jours, nous avons mis au point des méthodes bien plus ingénieuses qui peuvent tuer instantanément des centaines, des milliers et même des millions de gens. Depuis un siècle, l'humanité ne cesse de raffiner l'art de tuer. Des avions larguèrent des bombes puissantes, tuant des douzaines et même des centaines de personnes à la fois. Des canons énormes montés sur des navires coulèrent des vaisseaux ennemis avec des milliers de gens à bord. Des sous-marins lancèrent des torpilles pour frapper les bateaux en surface et envoyer machines et marins au fond des océans. Puis sont apparus des dispositifs de destruction encore plus puissants. Les armes nucléaires, chimiques et biologiques, capables d'être utilisées partout dans le monde. Et d'autres technologies guerrières encore plus sophistiquées sont en cours de développement, portant de plus en plus les moyens de destruction à des niveaux sans précédent. C'est pourquoi on peut dire que toute forme de vie pourrait, aujourd'hui, être détruite et disparaître de la face de la Terre. Saviez-vous que cette possibilité de destruction de toute vie sur Terre a été annoncée d'avance dans la Bible, non pas dans des versets obscurs et difficiles à comprendre, mais dans un passage déterminant écrit dans un langage très clair. Nous pouvons lire cette prédiction dans le 24e chapitre de l'Évangile de Matthieu, où Jésus dit à ses disciples que le temple majestueux de la ville de Jérusalem serait détruit. Notez le verset 2. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Cela s'est produit 39 ans plus tard, exactement comme Jésus l'avait annoncé. Alors que de très grandes pierres hérodiennes délimitent encore le mont du Temple, pas une seule des pierres de plusieurs tonnes qui constituaient ce magnifique temple n'est encore debout. En réponse à la prédiction du Christ, ses disciples lui demandèrent au verset 3, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Remarquez bien que la première question évoquait la destruction du temple, alors que la deuxième et la troisième question concernaient le retour du Christ et la fin du monde. Jésus mentionna alors des signes par lesquels on pourrait savoir quand la fin serait proche. Il a parlé de la prolifération des fausses religions, accompagnées de guerres, de famines et d'épidémies. Il est vrai que nous avons toujours connu ce genre de problème, mais ceux-ci devaient s'intensifier à mesure qu'approcherait le temps de la fin. Jésus l'a dit dans Matthieu 24, versets 6 et suivants. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Au cours du 20e siècle, nous avons connu deux grandes guerres qui ont frappé le monde entier. Jamais auparavant, aucun conflit n'avait massivement affecté toute la Terre. Là où les guerres précédentes avaient tué des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes, ces deux guerres ont fait des dizaines de millions de victimes. Aujourd'hui, en ce 21e siècle, nous assistons à la réapparition de graves conflits ethniques et religieux. On pourrait penser ou espérer que l'homme serait capable de régler ses problèmes, mais ce n'est pas le cas. Jésus l'a prédit, et au verset 21 et 22, il a même précisé exactement où cela nous mènera. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, n'aurait la vie sauve. Cette prédiction, faite il y a plus de 1900 ans, annonce pour notre époque des guerres d'une ampleur inconnue jusqu'ici, des conflits ethniques et religieux opposant des nations entières qui conduiront l'humanité au bord de la destruction totale. Le Christ avait-il raison? Comment pouvait-il savoir? Il est tout-puissant. Quand Jésus a prononcé ces paroles prophétiques, la technologie nucléaire, les missiles balistiques intercontinentaux, les armes chimiques et bactériologiques n'existaient pas. Néanmoins, il a prédit avec précision ce que nous savons être maintenant possible. Les conditions et les méthodes nécessaires pour détruire toute vie sur la Terre sont de nos jours devenues réalité. Aucun être humain n'est capable de prédire ce qui va se produire dans 2000 ans, comme l'a fait le Christ pour notre époque. Mais il y a plus.
Pour en apprendre davantage sur le thème traité au cours de cette émission, commandez notre brochure gratuite, sans aucune obligation de votre part, intitulée « 14 signes annonçant le retour du Christ ». Cette brochure vous dévoilera les signes précurseurs au retour du Christ. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger celle-ci à partir de notre site Internet. Appelez dès maintenant.
Nous examinerons maintenant le deuxième élément de preuve concernant la prophétie biblique. Deuxième élément. Au moment où l'homme pourrait détruire toute vie, il développerait des technologies permettant une communication instantanée sur de grandes distances. Durant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, la communication était très limitée par rapport à ce que nous connaissons maintenant. De nos jours, nous pouvons utiliser des services mobiles, taper quelques chiffres et parler à quelqu'un qui se trouve à l'autre bout du monde. Nous tenons pour acquis les téléphones cellulaires, les smartphones, tablettes, ordinateurs personnels. Mais ils n'ont pas toujours été là. Ce sont des inventions récentes qui n'existaient pas quand je suis né. Il a fallu des avancées technologiques incroyables pour que cela devienne possible. Les communications par satellite se font par de petits, mais très puissants ordinateurs, émetteurs et récepteurs qui ont été mis sur orbite par des fusées géantes. Pensez-y. Qui aurait pu imaginer cela il y a 1900 ans? Allons plus loin. Saviez-vous qu'il y a une prophétie biblique qui ne pouvait s'accomplir avant que de telles technologies soient disponibles? La Bible nous annonce qu'au temps de la fin, il y aura sur terre deux hommes qui provoqueront par la puissance de Dieu toutes sortes de plaies pendant 3 ans et demi. Il est aussi écrit qu'après cela, Dieu permettra aux ennemis de ces deux témoins de les mettre à mort. Le lieu de leur assassinat est également précisé dans les Écritures. Et la technologie de communication rendant possible un aspect de la réalisation de cette prophétie est déjà en place. Dans Apocalypse 11, à partir du verset 7, voyons ce qui arrivera après qu'ils auront été tués. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Ces événements se dérouleront en moins de 4 jours, et pourtant, des gens de partout dans le monde vont se réjouir de la mort de ces deux hommes. Il y a moins de 100 ans, il aurait été impossible que toutes ces personnes soient informées d'un tel événement en un temps aussi court. En outre, dans Apocalypse 11, 9, la prophétie stipule que « Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. » Avant que la télévision, la transmission par satellite, Internet et les autres moyens électroniques que nous connaissons puissent envoyer des images instantanément sur de grandes distances, c'était impossible. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Qui aurait pu imaginer cela quand l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, a été écrit? Troisième élément. La Bible a annoncé la venue de son personnage central des centaines d'années à l'avance. Bien qu'il existe des dizaines de prophéties très spécifiques concernant la venue prochaine du Christ, nous en verrons aujourd'hui seulement quelques-unes. La Bible nous parle d'un homme appelé Jésus qui se disait fils de Dieu. Cette affirmation a été appuyée par des miracles qui ne peuvent absolument pas être niés. À la fin, la jalousie poussa les chefs des Juifs à le crucifier, et ses disciples en furent dévastés parce qu'ils pensaient qu'il instaurerait son royaume à leur époque. Toutefois, 3 jours plus tard, il ressuscita d'entre les morts. Plusieurs le virent après sa résurrection. Dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, à partir du verset 3, l'apôtre Paul rapporte « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. » L'histoire de sa résurrection est considérée par certains comme n'étant rien d'autre qu'une histoire intéressante qui ne devrait pas être prise au sérieux. Après tout, c'était il y a longtemps. Savons-nous même s'il a vraiment existé? Pouvons-nous le savoir? La réponse est oui. La Bible a été écrite par différents auteurs, comme Matthieu, Marc, Luc, Jean, Jacques, Pierre et Jude. Et ces derniers ont tous attesté de l'existence de Jésus. Cette preuve ne peut pas être rejetée sous prétexte que certains ne croient ni Dieu ni la Bible. De plus, ce ne sont pas les seules personnes qui affirment l'existence de Jésus. L'historien Tacite raconte les événements entourant l'incendie qui a détruit la moitié de Rome durant le règne de Néron en l'an 64 de notre ère. Beaucoup de Romains croyaient que l'incendie avait été ordonné par Néron pour différentes raisons. Mais pour calmer les rumeurs, l'empereur se mit à blâmer et à persécuter les chrétiens. Pour apaiser ces rumeurs, il, Néron, offrit d'autres coupables et fit souffrir les tortures les plus raffinées à une classe d'hommes détestés pour leurs abominations et que le vulgaire appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christ, qui, sous Tibère, fut livré au supplice par le procurateur Pontius Pilatus. Par ailleurs, les disciples ont été des témoins oculaires de la mort de Jésus et de sa résurrection à la vie. L'un d'eux, Thomas, refusa de croire ce qu'on lui avait rapporté jusqu'à ce qu'il se retrouve en présence du Christ ressuscité. Le récit rapporte qu'il n'était pas avec eux quand Jésus apparut la première fois aux autres apôtres et que, quand ils lui racontèrent qu'ils avaient vu le Christ ressuscité, il leur répondit dans Jean 20 au verset 25, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Comme nous le montrent les versets suivants, 8 jours plus tard, Jésus leur apparut à nouveau, mais cette fois Thomas était là. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » La preuve était incontestable. Ces hommes étaient convaincus que l'homme appelé le Christ, Jésus de Nazareth, était effectivement ressuscité d'entre les morts après être resté dans la tombe 3 jours et 3 nuits. Plusieurs récits historiques nous disent qu'ils en étaient tellement convaincus qu'ils ont prêché Jésus et son message du royaume de Dieu jusqu'à ce qu'il soit réduit au silence par le martyr. Ces hommes savaient, hors de tout doute, que ce qu'ils proclamaient était vrai. Il serait inconcevable qu'ils aient donné leur vie pour quelque chose qu'ils auraient su être faux. Ils savaient que Jésus avait été crucifié et qu'il était ressuscité. Aucun d'entre eux ne s'est rétracté pour sauver sa vie. Seul Jean mourut d'une mort naturelle, mais il a, lui aussi, beaucoup souffert pour le Christ, sans jamais abandonner sa croyance au Christ ressuscité. Le sort du Christ avait été planifié et annoncé longtemps auparavant.
Pour en savoir davantage sur les événements qui se produiront dans un avenir rapproché, demandez notre brochure gratuite « 14 signes annonçant le retour de Christ ». Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou téléchargez le texte à partir de notre site Internet. Vous recevrez aussi, sans frais, la revue « Le monde de demain », qui vous fournira des informations pertinentes relativement à l'existence humaine et ce que nous réserve l'avenir. Appelez dès maintenant.
Les Écritures de la première heure prédisaient un Messie à venir qui donnerait sa vie pour toute l'humanité. Certains détails très précis ont été consignés par écrit pour s'accomplir ensuite avec exactitude. Dans Ésaïe 53, 1 et 2, le prophète affirme que le Fils de Dieu viendrait, dans un corps d'être humain normal. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Au verset 3 du chapitre 53, Ésaïe nous dit ensuite que Jésus serait rejeté par les hommes et que ceux-ci ne comprendraient pas qui il était réellement. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Ce rejet, par ceux de sa génération et par son propre peuple, allait mener le Christ à une mort brutale. Mais ce ne serait pas en vain. Puisque nous avons tous transgressé la loi de Dieu, dont la violation mérite la mort, il donnerait ainsi sa vie pour la nôtre. Et cela aussi a été prédit avec précision à partir du verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Les témoins oculaires affirment que Jésus a été mis à mort en compagnie de deux criminels. Ensuite, un homme riche l'a placé dans le tombeau qu'il avait préparé pour lui-même. Remarquez la précision avec laquelle Ésaïe 53:9 a annoncé ce qui arriva ensuite. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. D'autres prédictions, figurant ailleurs dans la Bible, se sont aussi réalisées. Psaume 22, verset 17, « Ils ont percé mes mains et mes pieds. » C'est exactement ce qui s'est passé. Jésus fut étendu sur un pieu ou une croix, et on lui enfonça des clous dans les mains et les pieds pour le maintenir. Non seulement ce passage prédit une mort par crucifixion, mais il nous donne des précisions sur la façon dont on disposa de ses vêtements. Verset 19. « Il se partage mes vêtements, et il tire au sort ma tunique. » Dans leurs évangiles, Matthieu, Luc et Jean décrivent l'accomplissement de cette prophétie. Voyons le récit de Jean, au chapitre 19, versets 23 et 24. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent ensuite sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Sans s'en rendre compte, ces gens accomplissaient une prophétie énoncée des centaines d'années plus tôt, démontrant que Jésus était bel et bien le Messie prophétisé. Nous avons vu que la Bible a annoncé des centaines et des milliers d'années à l'avance des événements tout à fait spécifiques. Elle a prédit que les hommes arriveraient à développer les moyens de détruire toute vie sur la planète. Elle annonça l'existence de communications planétaires sophistiquées, où des gens de partout pourraient voir les deux témoins de Dieu être mis à mort et laissés sur place dans les rues de Jérusalem sans sépulture pendant 3 jours et demi. La Bible a également annoncé de façon précise et détaillée le retour prochain de Jésus-Christ sur la terre. Que nous apprend encore la Bible? À quoi s'attendre dans les toutes prochaines années? Voici quelque chose de vital que vous devez savoir concernant le futur immédiat de notre monde. Aujourd'hui, nous voyons le Moyen-Orient en conflit et dans la confusion. Le tout petit État d'Israël est entouré de nations hostiles qui voudraient se débarrasser des Juifs. il y a quelque 2500 ans, la Bible a prédit que telle serait la situation à la fin de notre époque. Dans le livre de Zacharie, au chapitre 12, nous pouvons lire au verset 2 et suivant. « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda, dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Durant toute la période, allant de l'an 135 de notre ère jusqu'en 1967, les Juifs ne contrôlèrent pas Jérusalem. Durant toute cette période, il était impossible que cette écriture s'accomplisse. Mais de nos jours, les Juifs sont dans Jérusalem et Jérusalem est menacée. Que nous annonce Zacharie 14 à partir du verset 2 pour la suite des événements? Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. L'Éternel sera roi de toute la terre. De nos jours, les conflits se multiplient. Les armes de destruction massive sont de plus en plus nombreuses et puissantes. Seul le retour du Christ nous sauvera d'une destruction totale. Il établira alors un royaume harmonieux qui apportera la paix à notre planète troublée. Voilà le message prophétique que la Bible proclame et que nous avons la responsabilité de vous faire connaître. Joignez-vous à nous chaque semaine à l'émission « Le monde de demain ». Nous continuerons de partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ et la signification des prophéties des temps de la fin. Nous vous invitons à être des nôtres pour découvrir la perspective divine concernant les événements qui marquent l'actualité, les vérités bibliques et la vie chrétienne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station.
Visitez notre site Internet pour lire ou commander la brochure intitulée « 14 signes annonçant le retour du Christ ». Cette publication gratuite vous fera découvrir les signes qui devront se réaliser avant le retour de Christ sur cette terre. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou téléchargez le texte à partir de notre site Internet. Notre site Internet vous offre des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux actuels et futurs. Vous recevrez aussi sans frais, la revue Le Monde de demain, qui vous fournira des informations pertinentes relativement à l'existence humaine et ce que nous réserve l'avenir. Nous avons aussi un cours de Bible en 24 leçons, explorant des thèmes importants pour votre futur. Appelez dès maintenant. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.